Vous écoutez On perd le Nord. Dans ce deuxième épisode, on vous retrouve pour parler des causes et des conséquences de la diminution des stocks de poissons. On redonne la parole à Thibaut Josse de l'association Pleine Mer et aux chercheurs du CNRS. Ils nous parleront de la surpêche et du changement climatique dans la Manche. On voit souvent passer des articles sur les problèmes environnementaux que posent les chalutiers. Mais alors, quels sont les problèmes que posent ces bateaux ?
Le chalut, c'est juste un engin de pêche. Donc c'est un engin de pêche qui ressemble un peu à une chaussette faite en filet. Et donc on traîne cette chaussette sur le fond et les poissons finissent au fond de la chaussette, quoi. Par contre, il y a tout type de chalut. C'est-à-dire qu'on peut avoir des chaluts sur des petits bateaux on va dire, 12 mètres, même 10 mètres. Et puis on a des chalutiers géants, particulièrement en Manche, qui eux vont faire entre 80 et 140 mètres. Et donc là, on n'est plus du tout sur le même niveau d'impact. Il y a un impact qui est bien plus important parce qu'ils peuvent priver jusqu'à 200 tonnes de poissons par jour, là où un artisan va pêcher quelques centaines de kilos. Donc clairement, au niveau de l'impact sur les ressources, c'est extrêmement important.
Il y en a dans la Manche des chalutiers qui pêchent 200 tonnes par jour ?
Oui, il y en a régulièrement. En fait, vous les avez souvent en novembre, décembre dans la Manche, donc c'est des bateaux qui sont tous sous capitaux néerlandais. Ils appartiennent à deux compagnies, une qui s'appelle Cornelis Vrolijk et l'autre qui s'appelle Parleviet van der Plas. Et donc ces deux compagnies-là, en fait, elles ont accumulé beaucoup de quotas dans leur pays d'origine, aux Pays-Bas. Et puis ensuite, elles ont eu la bonne idée de racheter des bateaux dans un peu tous les pays d'Europe pour avoir des quotas aussi dans d'autres zones de pêche. Et donc, ils ont construit ces espèces de monstres des mers, des chalutiers géants qui font en 80 mètres pour le Skomo Russe et jusqu'à 140 mètres pour le Africa, par exemple. Et c'est des congélateurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils pêchent du poisson bleu et ils le transforment directement sur place, c'est-à-dire qu'ils le surgènent dans des cartons directement sur le bateau. Donc on est vraiment sur un bateau usine, quoi.
Et ils passent combien de temps en mer, eux ?
5 à 6 semaines.
Semaines, waouh !
Ils nous expliquent pourquoi les pêcheurs sont désavantagés par le système de quotas et qu'ils ne sont pas insérés dans les instances décisionnelles.
Le président d'une organisation de producteurs, il doit être pêcheur, dans tous les cas. Il faut que ce soit un pêcheur. Donc après, les pêcheurs artisans s'investissent pas. Et du coup, ils sont pas présidents. Et les armateurs, ils vont pas en mer. Hein. Geoffroy Delhem, Soazic, tous les gens dont vous avez parlé, hein. Antoine, ils vont pas en mer. Donc ils ont tout le temps pour aller faire des réunions, mettre un costume et aller récupérer tous les droits de pêche qu'ils peuvent dans les instances représentatives. Quoi. On a Jacques Pichon, qui était directeur de l'organisation de producteurs-pêcheurs de Bretagne, et qui est passé directeur de l'armement La Houle, qui est l'armement qui avait touché le plus de quotas quand lui, il était directeur. Donc on peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce que tous ces quotas ont filé vers cet armement-là quand il était directeur, et qu'ensuite il est passé à la tête de l'armement. Donc évidemment, ouais, ce genre de conflit d'intérêts, c'est quand même assez fréquent dans la pêche en France, malheureusement.
Mais à qui appartiennent ces chalutiers géants ? Thibaut nous raconte la petite histoire d'Antoine Delhem. C'est le cofondateur de France Pélagique, un armement créé aux côtés d'une multinationale de la pêche néerlandaise, Cornelis Vrolijk.
C'est en partie de ces bateaux étrangers dont parlait Merlin Laurent, le pêcheur de l'épisode précédent.
Plus on creuse, plus on se rend compte des connexions entre ces multinationales et les institutions supposées régir la pêche.
Ça, vraiment, c'est un truc à comprendre. Aujourd'hui, on a un armement en France qui s'appelle France Pélagique. Cet armement, il a été créé dans les années 80, et l'objectif, c'était de donner en fait aux industriels néerlandais des quotas français. Donc en fait, les industriels néerlandais, grâce au libre marché ou à cause, quand ils achètent un bateau français, ils peuvent pêcher sur des quotas français. Mais les capitaux sont bien évidemment néerlandais quand ils achètent un bateau français. Et donc, dans les années 80, on a Antoine Delhem qui décide de créer l'armement France Pélagique aux côtés d'une multinationale de la pêche néerlandaise qui s'appelle Cornelis Vrolijk. Et donc les capitaux de cette entreprise sont partagés entre Antoine Delhem, qui est français, et Cornelis Vrolijk, qui est un armement néerlandais. Et puis ensuite, quelques années plus tard, Antoine Delhem revend l'intégralité de ses parts à la maison mère Cornelis Vrolijk. Donc l'armement devient intégralement néerlandais, l'armement France Pélagique. Mais évidemment, les quotas continuent d'être français, puisque ces bateaux-là sont immatriculés en France et ont des antériorités de pêche dans les zones de pêche françaises. Et Antoine Delhem, évidemment, lui, pour continuer à faire fonctionner son business, il a développé une stratégie politique aussi. Et donc, il est aujourd'hui encore vice-président du Comité national des pêches, donc l'instance représentative des pêcheurs en France.
D'accord.
Et puis, il est aussi président de l'organisation de pêcheurs France Nord, qui répartit les quotas, justement, sur les bateaux de France Pélagique, donc sur les deux chalutiers géants, le Skomo Russe et le Prince Bernard. Après, aujourd'hui, il est vrai que ce n'est plus lui le directeur de France Pélagique, vu qu'il a donné la main à son fils, Geoffroy Delhem. Mais donc, on a quand même son fils qui est directeur de l'armement. Oui. ses amis néerlandais qui sont pour le coup actionnaires de l'armement, et lui qui est président de l'organisation de producteurs qui répartit des quotas, et qui est aussi vice-président du comité national qui prend les décisions les plus importantes sur la pêche au niveau national. Donc on est vraiment sur un espèce de d'infiltration de toutes les instances de la filière dans les intérêts d'une famille multimillionnaire néerlandaise, d'un empire de la pêche néerlandais. Eh ben génial.
Merci. Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Mais bon, ces gros bateaux, ce n'est qu'un des revers de la médaille. Vous allez voir que nos poissons ne sont pas au bout de leur peine. En plus d'être menacés par ces gros bateaux, ils se retrouvent de plus en plus impactés par le réchauffement des eaux induit par les transformations climatiques. C'est une dimension dont nous avaient fait part Sandrine et Sylvie dans l'épisode précédent.
Pendant nos recherches, nous sommes tombés sur une étude menée par le CNRS qui mettait en lumière l'influence croissante du réchauffement climatique sur les stocks de cabillaud dans la Manche et la nécessité d'ajuster les quotas de pêche en fonction des évolutions du climat. Les résultats suggèrent qu'un ajustement dynamique des quotas de pêche en fonction du climat retarderait l'effondrement des stocks de morue de près de 20 ans et augmenterait les captures total de près de 30%. Nous avons pu contacter Grégory Beaugrand, le directeur de l'étude et chercheur au laboratoire d'océanographie et de géosciences de l'Université de Lille Côte d'Opale, qui a bien voulu répondre à nos questions avec deux de ses associés sur le sujet, Alexis Dallambois et Loïc Kaparski.
Il faudrait réaliser un ajustement dynamique, c'est-à-dire en fonction du régime climatique, diminuer ou augmenter les quotas de pêche. Et effectivement, plus les températures vont se réchauffer et plus il va falloir diminuer les quotas de pêche pour pouvoir contrebalancer les effets négatifs de la pêche.
En se basant sur les évolutions des populations de morues, cette équipe de chercheurs a développé un modèle numérique qui met en évidence à la fois l'influence de la pêche et l'influence du changement climatique.
La morue est un poisson important, emblématique, hein. Et autrefois, cette espèce était fortement exploitée en Manche et mer du Nord. Donc ça fait plusieurs décennies que de nombreuses équipes travaillent sur les changements dans l'abondance de la morue en Manche et mer du Nord. Certaines équipes disaient que l'exploitation était en grande partie responsable des effondrements de stocks de morue qu'on a observés essentiellement à la fin des années 1980, alors que d'autres équipes pensaient que cet effondrement résultait à la fois de l'effet de l'environnement qui était devenu défavorable suite à l'augmentation des températures en mer du Nord et aussi donc la surexploitation. Que nous avons créé un modèle qui prend en considération à la fois les effets de la pêche, mais aussi les effets de l'environnement. Les températures se réchauffent et la morue étant un poisson plutôt caractérisant les eaux froides, si les eaux se réchauffent, il y a une raréfaction de la morue.
Mais Fischklim ne concerne que la morue ?
Le modèle Fischklim que l'on a créé ici peut être adapté pour n'importe quel type d'espèce. L'idée fondamentale de ce modèle, c'est ça part d'une théorie qui s'appelle METAL, pour Macroecological Theory and the Arrangement of Life. Donc en français, la théorie macroécologique sur la distribution, la répartition de la vie, qui est une théorie qui en fait essaie d'unifier la biologie des populations et la biogéographie, et qui essaie en fait de faire une passerelle entre les deux en essayant de mettre en avant des grands patterns, des grands schémas types d'organisation de la vie à partir de ce qu'on appelle les niches écologiques, et donc en fait à partir des conditions de vie de ces espèces.
D'accord. Et donc les effets de l'environnement, c'est la température de l'eau
C'est ça, en fait, si vous voulez, on a essayé de caractériser pour la morue d'Atlantique, mais également pour d'autres espèces, les paramètres qui pouvaient être les plus influents sur la répartition et sur la discrimination spatiale de ces espèces. Donc au tout départ, on a tâtonné un petit peu, testé différentes hypothèses et nous sommes focalisés sur trois grands types de niches. Une niche plutôt thermique qui nous permettait en même temps de modéliser les effets climatiques de court terme mais également de très long terme. Une niche qui soit plutôt trophique, c'est-à-dire liée à la nourriture la disponibilité en nourriture et donc en l'occurrence aux données de chlorophylle. Et également une niche bathymétrique, c'est-à-dire liée à la profondeur, puisque la profondeur peut être une forte source de discrimination des habitats pour les espèces marines.
Grégory Beaugrand nous explique comment ils ont réalisé cette étude.
Il a fallu préparer ces données, hein, puisqu'on a travaillé finalement sur la période 1850-2300.
Oui, donc pour ça, on a utilisé donc ce qu'on appelle des Earth System Models. Donc c'est les modèles utilisés par le GIEC. Donc on a utilisé 6 modèles différents qui reproduisent donc les variations de température et de concentration en chlorophylle, donc de 1850 jusque 2014 pour la période historique, et ensuite de 2015 jusque 2100 pour 2 scénarios de réchauffement. Donc le premier scénario, donc c'est ce qu'on appelle le Shared Socio-Economic Pathway 2-4-5, qui correspond à un réchauffement moyen d'ici à 2100, et le scénario SSP 585 qui correspond donc au plus fort réchauffement possible d'ici 2100.
Alors si vous voulez, on s'est vraiment focalisé sur la période donc 1963-2019, et ce qu'on a constaté, c'est que durant la période où on avait une explosion des gadoïdés en mer du Nord, c'est-à-dire une forte abondance des morues en mer du Nord, l'environnement est favorable pour la survie larvaire des morues, et donc suite à cet environnement favorable, le nombre de morues a augmenté, mais la pêche a également augmenté dans le même temps. Donc dans une deuxième phase, la surexploitation a fortement fait chuter les stocks de morue, et ça c'était dans les années 1980. Et donc là, durant cette période, l'influence de la pêche était de l'ordre de 77%. Par contre, le réchauffement des eaux de la mer du Nord a augmenté fortement dans les années 80, 90 et les années 2000, de sorte qu'actuellement, depuis effectivement 2010, on a le climat qui est fortement responsable, qui contrôle, si vous voulez, assez fortement le stock de morue, hein, puisque maintenant l'environnement est responsable de 64% de l'importance du stock. Hein. Donc on est passé d'une période où c'était plutôt la surexploitation qui affectait le stock, la fin des années 1980, à hauteur de 77%, à une période, le début des années 2010 jusqu'à actuellement, où c'est plutôt l'environnement qui influence fortement l'état du stock.
Aujourd'hui, on se retrouve quand même face aux premières conséquences du changement climatique qui nous force vraiment à nous adapter. Est-ce qu'on est rattrapé aujourd'hui par le réchauffement climatique, ça veut dire ?
Ben écoutez, oui, on voit que le réchauffement des températures affecte de plus en plus le stock de morues, ce qui va avoir des conséquences en termes de gestion du stock. Si vous voulez, lorsque l'environnement est très défavorable, la gestion du stock devient difficile. Alors que lorsque l'environnement est favorable, on peut mettre en place des outils qui nous permettent de gérer convenablement le stock. Mais là, actuellement, l'environnement est tellement défavorable qu'il devient de plus en plus difficile de gérer les stocks. Reconstituer les stocks, il faut prendre en considération le régime climatique. Et ce régime climatique, actuellement, dans la gestion des pêches, n'est pas considéré. Or, il est très important, si on veut gérer correctement et de façon durable les stocks de poissons, de considérer l'effet du dérèglement climatique. Je travaille sur le dérèglement climatique depuis une vingtaine d'années, et ce qu'on peut voir, c'est que les systèmes biologiques sont très sensibles aux changements de température. Et donc, évidemment, si on émet beaucoup de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre, on va dérégler le budget radiatif du système Terre d'une telle façon que le changement climatique va être considérable. Et dans un tel contexte, il est surprenant que dans la gestion des stocks de poissons, on ne considère pas encore le régime climatique.
Que vous pouvez m'en dire quelques mots sur l'évolution de la population de poissons, les espèces qui vont changer, qui vont arriver et qui vont partir.
Oui, les thons sont arrivés en Manche septentrionale. C'est vrai, cette année, ils ont été plus nombreux que d'habitude. Mais sachez qu'on les détecte en Manche occidentale depuis la fin des années 1990. Effectivement, on a de plus en plus de thons parce qu'on a un réchauffement des eaux de la Manche. On a aussi des oscillations naturelles qui font qu'on a parfois des périodes où le thon est abondant, parfois où il est absent. Hein. Et dans ce contexte-là, c'est peut-être relié à une oscillation atmosphérique et aussi hydrologique qu'on appelle l'oscillation multidécennale atlantique. Actuellement, elle est en phase positive. Et depuis la fin des années 1990, il est vrai qu'on a observé une augmentation des thons, une augmentation des sardines, une augmentation des anchois, une augmentation aussi des encornets. Donc il y a une part qui est liée à la variabilité hydroclimatique naturelle, hein, l'oscillation multidécennale atlantique, mais aussi une part qui est liée à l'augmentation des températures qu'on peut attribuer maintenant au dérèglement climatique. Donc effectivement, on va avoir des espèces qui vont disparaître et d'autres qui vont les remplacer. Alors, c'est problématique parce que ça signifie que les pêcheurs vont devoir s'adapter au changement dans la ressource. Et on ne pêche pas l'encorné comme on pêche la morue. Parfois, il faut changer de type de bateau, augmenter le nombre de personnes à bord, changer de type de filet, de maille de filet. Donc l'adaptation a un coût socio-économique important. Ce que nous aimerions, c'est que ce modèle soit utilisé par les gestionnaires des pêches pour établir des quotas plus dynamiques qui prennent en considération l'effet du régime climatique.
Actuellement, la température de la Manche a augmenté d'entre 1 et 2 degrés depuis 1960. Et selon les rapports du GIEC, ça pourrait encore augmenter de 3 degrés. La Manche n'est donc pas épargnée par les dérèglements du climat et les artisans de la pêche non plus.
C'était On perd le Nord. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos comptes Twitter et Instagram, ainsi que sur notre site internet.